se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, à la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. On est très heureux de finir la semaine avec vous, voilà, et de passer ces 3 heures de direct en votre compagnie et avec également Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
On est également avec notre professeur d'histoire géo et militant CGT, Benjamin Amar. Bonjour Benjamin.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
On a plein de choses à vous dire aujourd'hui.
Oui,
on est également avec la journaliste à l'incorrect, Juliette Briens. Bonjour Juliette.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Et le désormais propriétaire de Gîte, Jérôme Lavrieux. Ça va Jérôme?
Super.
Allez, au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, les annonces bien sûr de Gabriel Attal sur l'école, fermeté renforcée, point au moins aux examens, internat. Croyez-vous à ce sursaut d'autorité? À 13h, on parlera fêtes foraines, accident de manège, violence à la foire du trône. Est-ce qu'il faut en finir avec les fêtes foraines? À 13h30, ce sera le zapping, le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures. On se demandera si Aya Nakamura est une Twingo. Voilà, c'est ce qu'a dit Francky Vincent hier. À 14h, mode de vie, nourriture, voiture. On adopte de plus en plus d'habitude US. Sommes-nous en train de devenir des ricains? Eh bien, écoutez, donnez-nous votre avis au 32-16 et sur l'appli RMC. On vous attend.
RMC, Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC, on démarre tout de suite avec l'actualité du jour et c'est l'interview de Gabriel Attal hier soir avec Apolline de Malherbe sur BFM. Le Premier ministre a notamment dévoilé son plan pour lutter contre la délinquance des jeunes. Point en moins aux examens, internat, école jusqu'à 18h, vacances réduites, fermeté accrue. Gabriel Attal a lancé plusieurs pistes, écoutez.
La principale victime de la violence des jeunes, ce sont bien souvent les jeunes eux-mêmes. D'ores et déjà, j'ai pris un certain nombre de décisions. Je vous donne quelques exemples. Semaine prochaine, le garde des Sceaux signe la circulaire pénale que j'ai annoncée sur les questions des agressions liées à la laïcité. Ça doit être toujours une circonstance aggravante, première chose. Deuxième chose, quand vous avez un jeune, un élève, qui commence à dériver, on doit pouvoir lui appliquer une sanction qui est l'équivalent des travaux d'intérêt général, qui aujourd'hui ne sont pas possibles en dessous de 16 ans. Ça rentrera en vigueur dès le retour des vacances de printemps. Allez-y. Les internats. J'ai dit que je souhaitais qu'on ait davantage recours aux internats pour couper les jeunes qui dérivent de leur mauvaise fréquentation.
Alors, Rémi Barré, ce sursaut d'autorité, c'est vrai que ça sonne bien hein, comme ça, mais malheureusement, c'est pas très nouveau. Hein.
Oui, notamment en ce qui concerne tiens, les internats dont Gabriel Attal vient de parler. En mars dernier, en déplacement à Marseille, Emmanuel Macron avait déjà évoqué vouloir sortir les plus jeunes qui participent au trafic de drogue, peut-être en les mettant dans des systèmes éducatifs adaptés, peut-être en les mettant en internat pendant 6 mois, voire pendant une année scolaire. L'idée étant donc, on l'a entendu, de les éloigner de leur mauvaise fréquentation. Ces places en internat, elles existent. Hein. Gabriel Attal, on a évoqué hier des dizaines de milliers qui sont désespérément vides. Il y en aurait peut-être 52 000 de places disponibles aujourd'hui dans les internats en France. Mais reste à trouver l'encadrement. Parce qu'un internat, oui. Il faut bien du monde pour encadrer les internes. Même chose pour l'accueil des collégiens dans leur établissement scolaire de 8h à 18h. Autre annonce, j'allais dire phare, qui a été faite hier par Gabriel Attal. Sauf que là aussi, cette annonce... elle avait déjà été faite par Emmanuel Macron, le chef de l'État, encore une fois en déplacement à Marseille, décidément. Cette fois, c'est en juin 2023. Il avait alors évoqué une première expérimentation dans les quartiers prioritaires et dans les réseaux d'éducation prioritaire. D'ailleurs, depuis la rentrée, 200 établissements testent ce dispositif, mais aucun bilan n'a encore été publié. Une mesure que, d'après le syndicat enseignant SE-UNSA, il n'a pas été possible de mettre partout en place ce test dans ces établissements. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne, pas en tout cas pas suffisamment de monde pour encadrer les élèves qui restent de 8h à 18h.
Alors, croyez-vous à ce sursaut d'autorité demandé par Gabriel Attal? Évidemment, je commence avec vous, Benjamin Amar, parce que vous qui êtes de l'éducation nationale, parce que vous êtes prof d'histoire géo, est-ce que ces mesures vous ravissent?
Non mais alors, enfin, ça, c'est pas la première fois que, s'agissant de Gabriel Attal, je pointe, pour ma part, un excès de communication politicienne à tous les égards. Et alors moi, je vais être très clair, un discours consistant à donner, finalement, à restaurer l'autorité à l'école, moi je suis pour, hein, j'ai aucun souci avec ça. Pour moi, ça fait partie, encore une fois, c'est dans l'intérêt des élèves, dans l'intérêt pédagogique, c'est aussi dans le sens des, ça va dans le sens de meilleures conditions de travail pour les profs. D'ailleurs, donc j'ai aucun souci. Et d'ailleurs, je pointe hier Gabriel Attal a exprimé dans son discours, j'ai entendu qu'il disait, on ne fait pas grève pour comment dire avoir de plus de calme à l'école, etc. C'est faux. Il y a beaucoup de mouvements de grève, alors des fois d'envergure nationale et parfois
d'envergure
plus locale, pour les conditions de travail. Ça fait partie des conditions de travail. Donc moi j'ai aucun souci sur le fond. Par contre, ça vient d'être dit, c'est du réchauffé.
Ouais.
Première chose. Bon. Et deuxièmement, et c'est plus
mais
grave.
Mais si c'est bien.
Oui, mais pour que ça soit bien, il faut que ça se traduise dans les actes. Et ça vient d'être dit par Rémi. Il faut, pour les internats, pour le 18h à l'école, il faut des moyens et des personnels. Donc, quand ici, on a des discussions sur les moyens et que certains, autour du plateau, me disent « mais il n'y a pas que les moyens ». Si, il y a les moyens. Si on veut, effectivement, restaurer un climat
l'autorité,
serein…
L'autorité, ce n'est pas des moyens.
Je t'ai déjà donné cet exemple.
Je
te donne un exemple très concret. Quand tu fais ton cours et que c'est calme dans ta salle de cours, mais que t'as des gamins qui passent et qui mettent des coups de pompe dans la porte, si effectivement tu as plus de surveillants qui peuvent quadriller le lycée en permanence, d'accord. Eh ben non, ça c'est pas possible.
D'accord,
donc oui, il y a besoin de moyens humains. Sinon, on fait juste un discours sur l'autoritarisme et ça ne sert à rien.
Ou alors aussi, voilà, il y a un gamin qui frappe dans ta porte avec un coup de chaussure, ben bah, t'ouvres ta porte et tu le rends chez le surveillant. Il y a ça, il y a pas besoin de moyens.
Sauf que
t'as les profs qui ne font
pas comme
aussi.
Ça, Estelle. Quand tu ouvres ta porte, le gamin qui a mis le coup de pompe, il est déjà à 100 mètres. Donc il faut des gens dans les couloirs. Voilà. Et ça, et justement, là, on n'est pas justement dans le discours. On est dans des choses qui peuvent s'appliquer concrètement.
Oui, Rémi Barré.
Pour aller dans le sens de ce que dit Benjamin à l'instant, ce matin, Sud-Ouest, titre, c'est la une de Sud-Ouest, 15 millions d'heures de cours perdues chaque année en France. C'est parce que, tout simplement, on n'arrive pas à remplacer les profs, parce qu'il n'y a pas de remplaçants.
Il y a une crise de la vocation.
Au-delà des moyens, il y a la crise de la vocation. Il n'y a plus aujourd'hui de candidats au professorat. Là, on nous dit 8h, 18h, les élèves en cours, encadrés par qui? Je donne juste un petit exemple pour aller dans le sens de Benjamin, ça va être très court. Moi, j'ai quelqu'un près de moi qui est dans l'enseignement, et qui débute dans l'enseignement, qui a demandé à son proviseur, si je veux coller un élève, comment ça marche? Oh là 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 là, attention, pas trop vite, parce que si vous collez des élèves tout le temps, moi j'ai pas les surveillants disponibles.
Résultat des courses, moi concrètement parlant, j'ai réglé le problème depuis des années, je les colle dans mon cours.
Voilà. Ah oui.
Eh ben c'est bien.
Bah oui, c'est bien.
Bah, bravo.
Bien sûr, c'est
lui. Tu as eu besoin d'une directive du ministère.
Sauf que c'est pas ce que je suis censé faire en principe. En principe, quand tu les mets en permanence, ils sont surveillés en salle de permanence. Et donc là, ce que je fais concrètement, c'est du bricolage.
Jérôme Lavrieux, est-ce que pour vous ça va dans le bon sens ces mesures, même si c'est du réchauffé?
Chacune de ces mesures prises individuellement est totalement anecdotique. Ce qui est bien, c'est l'ensemble de ces mesures. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal on est en train de changer de dimension, de dire maintenant stop, ça suffit, chacun doit prendre ses responsabilités. Tout le monde dira ah mais ça on l'a déjà essayé, ça marche pas, puis ça on l'a dit il y a un mois, c'est du réchauffé. Ben non, quand on l'a dit il y a un mois, c'est pas du réchauffé, ça veut dire qu'on est en train de le vouloir le faire.
Répète, en fait.
Ça marchera pas du premier coup, tout sera pas efficace à la rentrée de septembre, mais ça montre un chemin, un signal de fermeté, de reprise en main. Toi, ce que tu dis, manque de moyens, ce que tu fais dans ta classe, c'est pas du bricolage, moi ça s'appelle ça du pragmatisme, si chacun faisait comme ça. Et les moyens, je suis désolé, il y a surtout à mon avis un problème d'organisation. Enfin, pendant des années, maintenant elle n'existe plus, elle existe sous un autre nom, on disait que l'administration de l'éducation nationale, c'était plus de personnes que dans l'armée rouge, c'était la plus grosse administration au monde. Donc il y a du monde dans l'éducation nationale. À mon avis, il y a aussi un problème de réorganisation, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent pour être devant les enfants. Quand il dit de 8h à 18h dans les cours, c'est pas dans les cours. C'est 8h à 18h dans l'établissement scolaire, pour qu'ils ne soient pas aussi dans la rue. Moi, à tout ce paquet, je rajouterais quelque chose.
C'est une garderie, quoi. Non, c'est pas si, c'est ce que tu viens de dire.
Non. S'il n'y a pas de surveillant et qu'il n'y a pas de prof, c'est une garderie.
Quand tu es dans une salle de classe et qu'il y a un surveillant ou un prof qui est en train de préparer ses cours plutôt que de le faire chez lui ou de corriger ses copies, mais qui est là dans la salle et qu'il y a des gamins qui sont là pour préparer les cours d'après, pour réviser, etc., ça peut se faire aussi. C'est pas juste de la garderie.
Le prof, il faudra le payer.
Et je préfère, même si c'était de la garderie, je préfère que ça se fasse dans un collège que en train de chauffer pour voir s'il y a un dealer qui arrive. Et je rajouterai à tout ça, parce que je voudrais bien passer pour un dangereux mec de droite, c'est que moi je suis pour qu'il y ait un couvre-feu à partir de 16 ans. À 16 ans, à 22h, 22h30, t'as rien à foutre dehors, tu dois être chez toi. Puisqu'en dessous de 16 ans, t'as l'excuse de minorité. Donc tu es sous l'autorité de tes responsables légaux, de 22h ou 22h30 jusqu'à 6h du matin, tu es chez toi et tu glandes pas dans la rue. Et ça, je pense que ça envoie un climat général à la société de dire la fête est finie et maintenant vous arrêtez de faire n'importe quoi.
Quelqu'un l'avait dit, hein, la bamboche c'est terminé.
Oui, le général de Gaulle.
Oui, c'est même, exactement, mais enfin, en tout cas, ça, c'est, voilà, ça n'a pas amélioré les choses. Juliette Briens, je vous sens totalement désabusée depuis le début de ce débat.
Non, mais parce que je trouve qu'effectivement, il y a évidemment un problème d'autorité à l'école. Certaines de ces mesures vont évidemment dans le bon sens. Évidemment qu'il faut que les élèves se lèvent quand le prof rentre en classe.
Oui. Ça, c'est un peu du gadget, hein, mais bon.
Voilà, exactement. C'est du gadget. Et, mais je, en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a, à mon sens, il y a une totale déconnexion entre ce qui se passe vraiment en France et ces mesures. C'est-à-dire que ces mesures, elles sont annoncées à la suite de quoi ? Elles sont annoncées à la suite de trois affaires qui ont profondément marqué les Français. L'affaire de Samara, lynchée devant son collège. L'affaire de Shamseddine, massacrée, tuée pour ce qu'on appelle un crime d'honneur, même si le terme est contesté, mais c'est comme ça que ces gens l'appellent, voilà, parce qu'il avait parlé à une jeune fille. Et l'affaire de Philippe hier, qui a été massacrée à coups de batte de baseball par des mineurs de 13 et 14 ans.
14 et 15 ans.
Alors, je veux bien qu'on dise qu'il faut remettre de l'autorité à l'école, mais je veux dire, c'est pas ça qui va venir penser et qui va venir en profondeur réparer les problèmes de violence hallucinants de nos jeunes mineurs aujourd'hui en France. Les professeurs aujourd'hui, face à cette violence-là, ils sont totalement désabusés, ils n'ont pas les qualités, ils n'ont pas les compétences pour gérer ce genre de jeunes.
C'est pas leur métier, hein.
C'est pas du tout leur métier. Moi, je pense, et ça a toujours été mon avis, qu'il faut revoir tout le système de centres éducatifs et de répression en termes de délinquance des jeunes. Il faut enfermer plus tôt. Pour moi, il devrait y avoir qu'un type de centre, un centre fermé pour les 10 à 15 ans. On devrait les exfiltrer, en fait. Il faut les exfiltrer de leur milieu et de leur famille dès le premier acte de délinquance.
Hein. Il y en a qui existent.
D'où l'internat.
Oui, oui, mais en plus, les structures existent déjà, mais il faut revoir la façon dont le système est fait. Il faut que ce soit...
Et la Cour des comptes les a épinglés.
Tout à fait.
La Cour a rendu un rapport il y a quelques temps.
Il faut qu'il y ait une exfiltration totale, c'est-à-dire que ceux qui sont de Marseille, ils vont dans le Grand Est. Exfiltration totale du milieu et de la famille. Plus de relations avec la famille.
À 10 ans,
les familles doivent passer par le procureur pour avoir des nouvelles. Et à l'intérieur de ce centre, on doit privilégier la répression et la rééducation à la pédagogie. C'est-à-dire que ça va être un entraînement quasi militaire pour moi. Je pense.
Alors là, c'est sûr que voilà, Gabriel Attal, il va pas tout à fait jusque-là.
Et à partir de 16 ans, je m'arrête là. À partir de 16 ans, pour moi, il n'y a plus d'excuses de minorité. On devrait arrêter.
Il faut mettre les moyens quand même pour en revenir aux moyens. Oui. Une journée, selon la Cour des comptes, une journée pour un adolescent passé en centre éducatif fermé, c'est 500 à 700 euros.
Ouais,
donc on ne peut pas couper la question des moyens. Sinon, c'est que du blabla.
Ça coûte cher à la collectivité, ça c'est sûr. On est en ligne avec Guillaume, qui nous appelle de Saint-Genès, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Guillaume.
Bonjour à toutes et tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous voulez réagir sur ce débat. Est-ce que ça vous a séduit, les mesures de Gabriel Attal pour lutter contre la délinquance des jeunes ?
Alors, moi, je ne peux pas dire que je suis en accord avec M. Attal sur la totalité, sauf que la volonté y est. C'est-à-dire que je trouve que notre société manque d'autorité. Je rejoins ce que vous disiez. Il y a aussi des moyens. L'État fait beaucoup de choses, sauf les axer principalement et prioritairement sur les fonctions régaliennes, dont l'école, dont l'éducation fait partie. Donc moi, je vous rejoins dans le sens où il faut mettre les moyens, mais au bon endroit, pour pouvoir permettre aux profs, aux instits, même aux assistantes maternelles, parce que ça commence très très jeune, de pouvoir se mettre dans un bon cadre et aussi réfléchir à ce qui fait que le dérapage intervient.
50% d'incidents de plus en école primaire l'année dernière. C'est absolument énorme.
Et moi, j'ai été chef d'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, je suis consultant en ressources humaines et prestations RH et je travaille sur beaucoup de couches de la société, que ce soit les jeunes, les mineurs, que ce soit les jeunes majeurs, c'est-à-dire 18-20 ans, ou les seniors. Donc j'ai toute la couche, si vous voulez, de la population dans des fois des difficultés d'insertion professionnelle et d'inclusion qui sont très fortes. Donc l'école en fait partie, bien sûr, mais à mon sens, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. J'ai 50 ans. Alors 50 ans, ça va faire vieux schnock de dire ça, mais j'ai connu le service militaire. Quand les gendarmes me demandaient de m'arrêter, je m'arrêtais sur le bord de la route. Mes parents me disaient « tu fais tes devoirs ». Maintenant, j'essaie d'inculquer ça à mes deux filles.
Et vous aviez vos parents qui étaient là ?
J'avais mes parents qui étaient là. Aujourd'hui, je vois que les familles monoparentales sont quand même beaucoup plus nombreuses qu'à mon époque, j'imagine.
Mais 80% chez les émeutiers de juin dernier, 80% de familles monoparentales.
Voilà, et je pense que là aussi, on a aussi des clés de résolution des causes et pas forcément parler que des conséquences qui ne sont mises en lumière que parce qu'il y a eu des drames, des choses tragiques. J'entendais encore je crois Philippe, c'est ça vous disiez, qui s'est fait, qui a eu
à Grande-Synthe.
Ouais, à Grande-Synthe, voilà. Qui a été lynché.
C'est tragique. Et aujourd'hui, même ma femme, je lui dis, quand elle est en voiture, ne klaxonne plus. Donc, c'est un ensemble sociétal qui fait que ça part de l'école, bien sûr, mais il n'y a pas que ça qui est à regarder. Il n'y a pas que ça qui est à
regarder. Mais vous avez raison, de toute façon, la société est de plus en plus violente et les chiffres, les derniers chiffres sur la délinquance le prouvent évidemment. Mais merci, en tout cas, Guillaume, d'avoir été avec nous. Voilà, ce n'est pas forcément tout ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, les mesures de Gabriel Attal.
Pour rendre quand même à Gabriel Attal, parce que là, on parle que de ces mesures sur l'école, mais il n'y a pas que des mesures sur l'école. Il a annoncé des mesures sur l'école, des mesures pour les réseaux sociaux, des mesures sur la justice des mineurs et des mesures sur la responsabilité des parents.
Alors ça, les responsabilités des parents, on en parlera dans quelques instants. Je voudrais juste revenir sur une mesure où on se dit, tiens, ces gadgets, Benjamin Hama, le fait que les élèves se lèvent quand le prof rentre, alors c'était comme ça il y a quelques années, ça s'est un peu perdu, on va dire. Vous voyez dire à vos élèves, vous vous levez quand j'arrive ou pas du tout ?
Mais je le fais depuis que je suis prof, moi. Depuis que je suis prof, quand je rentre, les élèves doivent se lever.
D'accord. Et ils s'assoient quand vous asseyez ?
Ça se passe très bien, ils l'assimilent très vite.
Et ça change quelque chose pour vous ?
Alors, ça a une vertu, pour moi, d'ailleurs, c'est uniquement pour ça que je l'ai mis en place, c'est parce que, comme ils doivent se lever, ça fait qu'ils rentrent en classe, ça les oblige à se calmer. Parce qu'autrement, c'est des invasions barbares, si vous voulez. Ils arrivent et puis ils parlent entre eux, comme s'ils étaient au KFC, quoi. Donc, alors que là, quand ils arrivent, ils sont obligés de se lever, ça calme tout de suite.
Ça marque une coupure. Parce qu'ils
ne peuvent pas s'asseoir tant que j'ai pas donné le silence. D'accord. Or, ils savent que je leur donne ce signal lorsque c'est calme. Et d'accord. Si par hasard, ils se rassoient et qu'ils refont le brouhaha, ils se relèvent.
Ah oui,
je vous assure que c'est assimilé très vite.
D'accord, et donc ça marche et c'est facile.
Ça marche. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel.
Et c'est pas si...
C'est assez simplement.
Et c'est pas si gadget que ça.
Non, c'est pas gadget du tout, je trouve ça très bien, moi.
Eh bien, très bien. Alors, on a pas mal de messages d'ailleurs sur la pierre MC, Rémi.
Message de Gaël qui nous dit encore une fois, une belle histoire de communication. Le gouvernement donne la priorité à l'éducation et on se... En fait, on se fout de ces jeunes, ce que nous dit Gaël. Ils ferment encore des classes avec 35 élèves par classe. Comment voulez-vous que tout se passe bien ? Pour moi, ce gouvernement, et il n'est pas le seul, laisse les jeunes à la dérive.
Notre invité sur ce débat, c'est Maxime Repère. Il est vice-président du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges et écoles du supérieur. Bonjour Maxime Repère.
Bonjour, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que les mesures données par Gabriel Attal hier vous enchantent ?
Alors écoutez, ce ne sont pas des mesures, ce sont des annonces.
Oui, bien sûr. Et si les mesures annoncées, on va dire.
Alors, encore, l'esprit est là. Le fait de responsabiliser les parents, le fait de rétablir l'autorité de l'enseignant, naturellement, nous disons oui. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'entre les annonces et la matérialisation, la concrétisation de ces annonces... Il va y avoir un fossé, comme il y a eu sur d'autres
mais
mesures.
Pourquoi ?
Bah, tout simplement parce que il y a des choses qui, dans les faits, ne sont pas réalisables. Quand on dit, par exemple, qu'un collégien doit passer 50 heures dans la semaine au sein de son établissement, je rappelle quand même que non seulement on a une pénurie d'enseignants, mais en plus, plus largement, on a une pénurie très forte de personnel encadrant. Quand vous vous retrouvez, par exemple, avec un AED pour 100 élèves ou plus, je veux dire, comment vous voulez, très concrètement, que l'on puisse donner un cadre serein
ce sera compliqué,
et sécurisant.
J'entends.
Ah, très compliqué. Très compliqué.
Alors, par exemple, il y a une mesure dont on n'a pas encore parlé, le fait d'enlever des points aux examens. Est-ce que ça vous paraît bien ? Enfin, si tant est que les jeunes délinquants passent des examens, mais...
Je pense que de toutes les façons, le comportement, il n'y a pas que la note qui est importante pour un élève, il y a aussi le comportement. Et en ça, oui, c'est une façon de dire à un moment donné, la note n'excuse pas un mauvais comportement. Et à un moment donné, si vous comportez mal, ça va avoir une conséquence sur la poursuite de vos études et l'obtention de vos diplômes. Mmh. Ça me semble quand même assez logique, quelque part, de dire
et c'est facile
le
à faire.
Comportement... Bah, facile à faire. Après, entre le fait de l'annoncer, d'annoncer cette possibilité et le fait de l'appliquer, là encore, il faut voir comment ça va être fait.
Mmh. Oui, mais après, c'est au prof, il met une note de comportement et puis, puis il met zéro, c'est tout.
Oui, non mais la chose, si vous voulez, c'est que toutes ces annonces, encore une fois, elles vont dans le bon sens. Elles vont dans le bon sens parce que elles dénoncent quelque chose qu'au niveau de notre syndicat, nous faisons depuis des années, de dire « attention, l'école va de plus en plus mal ». Mais le problème, c'est qu'entre ce qui va être dit et ce qui va être fait, nous sommes extrêmement vigilants. On en arrive à une situation où notre syndicat, le SNALC, va proposer de former les enseignants sur la gestion des conflits avec les élèves, avec les parents, où on en est à proposer des formations sur la laïcité, à sensibiliser les collègues sur une multitude de problématiques. En gros, le SNALC fait le job du gouvernement. Et à un moment donné, c'est pas normal que les enseignants, que les personnels se sentent impuissants à ce point pour se limiter à des annonces, pour en gros calmer les esprits. Mais on verra derrière que quand on va appliquer tout ça, eh bien, il n'y aura plus personne et surtout, il n'y aura pas les moyens, qu'ils soient financiers ou humains.
Ça, j'entends, Maxime Repère, mais après, j'entends aussi que vous dites que voilà, ça va quand même dans le bon sens. L'esprit est bon, quoi. Voilà, maintenant, il va falloir que ça se mette en place.
Mais il y a aussi une chose qu'on oublie un petit peu, je me permets aussi de le rappeler, c'est que l'école ne peut pas tout porter.
Mais on est
et l'école ne peut pas tout régler parce que la première cellule d'apprentissage d'un enfant, ce n'est pas l'école mais la famille. Et quand vous avez des problématiques de réseaux sociaux, moi je veux bien l'école doit sensibiliser sur les réseaux sociaux, etc. On a une part effectivement à faire, mais je veux dire, à un moment donné, quand vous avez des enfants de 7, 8, 9 ans qui ont des smartphones qu'ils n'ont pas payé avec leurs sous parce qu'ils ne travaillent pas, ont des abonnements internet, qui sont inscrits sur des réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas l'âge légal pour le faire, je veux dire, c'est pas l'école qui le fait,
Mais je suis d'accord, mais merci beaucoup en tout cas, Maxime Repère, voilà, merci d'avoir été avec nous et d'avoir un peu tapé du poing sur la table. Vous voulez terminer, Benjamin Marc, rapidement?
Oui, sur l'histoire des points points au bac, ça peut pas être l'idée que c'est un prof qui met une note et il met zéro, parce que dans le système actuel, il y a quelque chose qui s'appelle pronote. Le gamin, il voit la note, il va venir voir le collègue et il va lui dire mais pourquoi ça? Donc s'il s'agit
pourquoi ça, mais parce que tu t'es mal comporté,
non attends,
parce que tu coupes la parole.
Une décision de ce type, ça peut pas être un prof qui décide de mettre une note. Il faut que ce soit quelque chose.
Donc c'est le conseil de classe, c'est la note du conseil.
Il faut qu'il y ait quelque chose, voilà, de beaucoup plus institutionnalisé. Soyons clairs là-dessus.
Parce qu'après, le prof, il se fait taper par le grand frère. Après,
ça lui fait porter à lui.
C'est le conseil de classe, alors.
Ça lui fait porter à lui la responsabilité de ça.
C'est une note de groupe, alors.
Quand tes élèves en histoire géo, ils ont mauvaise note, tu leur mets une mauvaise note.
Il faudra voir la légalité. Le bac, c'est un examen. Il faudra voir la légalité de la chose.
Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais...
Un examen aujourd'hui, il sanctionne des notes à des épreuves. Donc un truc comme ça, il faut le cadrer.
Oui, mais sinon, t'as du contrôle continu, donc...
Le contrôle continu, alors, en l'occurrence, c'est sur du travail. C'est sur des devoirs.
Non, t'as des notes de comportement.
Faire n'importe où. Non, ça n'existe pas. Donc avant de faire des annonces à la cantonade, il faut cadrer les choses et expliquer clairement ce qu'on veut faire. Et ensuite, je rebondis tout à l'heure par rapport à ce que disait Julien. Les trois fêtes société des derniers jours qui nous ont sidérés se sont passées effectivement. Alors, il y en a un qui s'est passé
aux abords immédiats d'un
établissement, mais il ne me semble pas que ce
c'était
soit le cas
relié, vraiment,
pour Philippe.
Viry Châtillon, il sortait de l'école, il sortait sur le
Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, on ne peut pas tout faire porter à l'école. Il y a une réflexion globale à avoir.
Il a raison, parce que les premières mesures qui ont été annoncées, on l'a dit, il y a des mesures qui avaient déjà été annoncées, l'ont été au moment des émeutes.
Et je vous lis le message de Philippe, hein, qui est instituteur retraité et qui nous dit « Ça ne pourra pas fonctionner car rien n'est jamais appliqué dans l'éducation nationale. Il n'y a pas de sanctions, pas de vagues. Les profs ne doivent jamais exclure. Ça ne pourra pas marcher. » On termine avec d'autres messages. Rémi, le résultat de notre consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Allez, j'ai ce message de Grosse qui nous dit, Antoine Grosse qui nous dit « Professeur d'EPS remplaçant. 1 400 € par mois, plus une heure de déplacement matin et soir. On ne peut plus vivre aujourd'hui avec un salaire pareil. C'est pas comme ça qu'on va susciter des vocations, notamment pour les professeurs, mais aussi pour l'encadrement. Voilà ce qu'il nous dit, Antoine.
On va voir le résultat de notre consultation, Rémi ?
Oui, on avait posé la question à école jusqu'à 18h, internat, point en moins, y croyez-vous ? Il va falloir convaincre parce que les trois quarts de ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux n'y croient pas. 76% ne sont pas convaincus.
Alors Gabriel Attal qui a également parlé des parents. Il faut responsabiliser les parents, voire même les pénaliser. Les parents sont-ils les premiers responsables de la délinquance des jeunes ? On en débat avec vous dans un instant dans Estelle Midi sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 32, vous êtes toujours sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, Benjamin Hamard, Juliette Briens et Jérôme Lavrieux. Et on continue bien sûr à parler de Gabriel Attal et de ses mesures annoncées hier soir pour lutter contre la délinquance des jeunes. Et avec l'école, eh bien, le Premier ministre a aussi voulu s'attaquer aux parents défaillants. Selon Gabriel Attal, il faut absolument les responsabiliser, ces parents, voire même les pénaliser. Écoutez.
Pour moi, le cœur du sujet d'abord, c'est qu'on puisse retenir dans un plus grand nombre de cas la responsabilité parentale, et notamment la soustraction à l'obligation parentale. Être parent, évidemment, c'est difficile. Vous avez des parents qui sont dépassés, et ensuite vous avez des parents qui sont défaillants, qui manquent à leurs obligations parentales. Je souhaite qu'on puisse aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, pour reconnaître qu'un parent se soustrait à son obligation parentale, il faut qu'il y ait un manquement grave dans son obligation parentale. Je souhaite qu'on travaille à ce qu'on puisse retenir non pas un manquement grave, mais des manquements légers répétés.
Ben ça, c'est bien.
Alors, Rémi, aujourd'hui, que risquent concrètement les parents quand ils sont défaillants, on va dire ?
Alors, d'abord, de payer les dégâts causés par leur enfant. C'est ce que rappelle une circulaire publiée en juillet dernier, en plein cœur des émeutes, par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Dans ce document, il est écrit que le père et la mère sont solidairement responsables des dommages, du coût des dégâts causés par leurs enfants mineurs, et donc peuvent être condamnés à verser des indemnisations ou des amendes. Et ce n'est pas tout. Si les parents ne sont pas responsables pénalement des infractions commises par leurs enfants mineurs, la responsabilité pénale étant personnelle, le père et la mère peuvent être poursuivis en cas de grave manquement à leurs obligations légales. C'est ce que vient d'évoquer à l'instant le Premier ministre. En fait, quand les parents n'exercent pas leur autorité parentale et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Quant aux travaux d'intérêt général que pourraient se voir infliger les parents défaillants, ça aussi, Gabriel Attal l'a évoqué hier, la mesure avait déjà été annoncée en décembre dernier par Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles.
Alors, les parents sont-ils les premiers responsables dans la délinquance des jeunes ? Je commence avec vous, Juliette Briens.
Oui, bien sûr, toute une... Pour une grosse partie, je pense que ça aussi ça va dans le bon sens. Je suis quand même un peu étonnée parce qu'en fait apparemment tout existe déjà. C'est simplement que la loi.
Ce que dit Gabriel Attal, en fait, c'est que c'est rarement appliqué.
Parce que voilà. C'est grave,
mais comme d'habitude, la loi n'est pas appliquée. Oui, mais sur les responsabilités, par exemple financières conjointes des deux parents. Moi, évidemment, je pense qu'il faut pénaliser, taper au portefeuille pour les parents qui sont défaillants, c'est-à-dire qui sont démissionnaires. Mais ça, évidemment, il faudra bien le prouver. Il faudra qu'il y ait du multirécidivisme, il faudra qu'il y ait, je sais pas, une absence de collaboration. Il faudra que ce soit cadré pour prouver, évidemment, pour ne pas aller pénaliser les parents qui ont eux besoin d'aide et qui ne sont pas démissionnaires et qui sont juste tout simplement dépassés par leurs propres enfants, comme ça existe pour beaucoup.
Mais un parent qui est convoqué par le juge et qui n'y va pas, c'est
tout à fait. Voilà, je pense qu'il y a des manières très concrètes de distinguer les deux parents, le démissionnaire du dépassé, et pour le démissionnaire, évidemment, là, moi, je pense que il faut être évidemment très très strict et très sévère. Et je pense que c'est une très bonne mesure, oui. Faut-il qu'elle soit appliquée. C'est très bien, en fait, d'annoncer des mesures, mais comme on n'applique pas la loi dans ce pays,
Mais faire faire des travaux d'intérêt général à des parents défaillants, on peut quand même se demander, Jérôme Lavrieux, si c'est en repeignant le mur de l'Amérique, on va réussir à en faire de très bons parents et qui vont réussir à tenir leurs gosses, comme disait Éric Dupond-Moretti.
Mais moi, je suis sûr que c'est quand on ne leur dira jamais rien qu'on en fera des mauvais parents, qu'on les laissera toujours faire parce qu'ils ne craignent rien, ils s'en foutent. Moi, je pense que les seuls responsables de la délinquance des enfants mineurs, donc des enfants, c'est forcément des mineurs, ce sont les parents, c'est pas la société. Je suis désolé de dire que c'est parce que c'est des familles monoparentales. Ben non, tous les enfants qui ont été élevés que par leur maman ne deviennent pas des délinquants, ne deviennent pas des meurtriers. Il y en a qui font des études, il y en a qui se débrouillent, il y en a qui jamais, on n'entendra jamais parler d'eux en mal. Il y a plein de communes d'ailleurs qui font des cérémonies pour récompenser ceux qui passent des diplômes. Ben les mamans seules, elles viennent. Et puis quand tu vois que le gamin il vient pas, alors qu'il a eu un diplôme et que la maman elle vient pas, c'est qu'il y a un problème. Donc moi je pense que c'est les parents. Jusqu'à preuve du contraire, dans 98% des cas, ça se fait à deux, d'accord ? Ouais. Même si le type qui a mis sa petite graine, comme on nous a expliqué quand on était gamin, il s'est barré en courant, eh ben, il faut aller le rechercher. Quelque chose qu'on fait à deux, la responsabilité ? Et on ne, le terme même de parent démissionnaire, tu peux démissionner d'un boulot. Tu peux démissionner de n'importe quoi, mais tu ne démissionnes pas de ton rôle de parent, tu l'as fait, l'enfant. Après, on poursuit systématiquement, et on aide après, d'accord ? Et on aide après. C'est-à-dire qu'on convoque devant le juge, le simple fait de convoquer devant le juge. Et si tu viens pas, t'as rien, bah là, on change le paradigme. Tu es convoqué par le juge, et si tu viens pas, t'as un problème. Quand il y a le conseil de classe, et qu'une grande partie, on disait jusqu'à 40% des parents ne viendront jamais, bah là, t'as un problème, parce que c'est transmis aux services sociaux, et tu vas être convoqué ailleurs. Mais là, si on dit rien, il n'y a aucune raison.
Bien sûr.
Les seuls responsables, ce sont les parents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider. Et la République, elle est généreuse. Hein. Je vous rappelle que plus de 50% du PIB, c'est des impôts qu'on paye. Donc dans tous les domaines, c'est le pays au monde où on en paye le plus. On déverse le plus d'argent partout. Donc il y a des moyens, mais il y a aussi un sens de la responsabilité. Quand tu disais, le problème, la loi n'est pas appliquée. Non, sur le civil, la loi est de plus en plus appliquée depuis la directive de Dupond-Moretti suite aux émeutes. Ça, c'est le civil dont parlait Rémi. Mais sur le pénal, c'est en cas de atteinte grave.
Manquement grave.
Manquement grave. C'est le terme grave qui pose un problème. Mm-hmm. En cas de manquement, donc dès le premier truc, vous savez, c'est New York, quand c'était le bordel de la délinquance, ils se sont mis à poursuivre dès qu'il y a eu un carreau cassé, sans attendre que l'immeuble brûle. Ça a changé la vie.
Je suis désolée, mais... Vous n'avez pas dû connaître beaucoup de parents qui sont des très bons parents et qui malheureusement ont un enfant qui fait une énorme bêtise. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le premier truc, comme vous dites. Si vous voulez qu'on aille directement pénaliser des pauvres parents dès le premier truc. Moi, j'ai fait des grosses bêtises quand j'étais gamine. Je peux vous dire que mes parents, ils n'étaient pas du tout démissionnaires ou quoi que ce soit. Donc,
et ils t'ont dit bravo ?
Ah bah non, ils m'ont puni fortement. Mais je veux dire,
ils ont fait leur rôle.
Mais je vous écoute, vous me dites que vous aurez voulu que la loi vienne directement les pénaliser. Vous avez dit dès le premier.
Non, quand ils sont démissionnaires.
Dès le premier manquement.
Tes parents, ils allaient voir le juge, ils allaient voir le conseil.
Encore faut-il le prouver, voilà.
Alors, je vous garde au chaud, Benjamin Mars. On parle de conseil de discipline. Et justement, on a Kevin en ligne qui est DRH à Caen et qui a assisté à plusieurs conseils de discipline. Et certains vous ont laissé bouche bée, hein, Kevin.
Bonjour à tous, oui, tout à fait. En fait, moi, là, récemment, je suis représentant des parents d'élèves, hein, et je participe au conseil de discipline. Alors, moi, je suis RH de métier. J'ai l'impression, des fois, de participer à des réunions de représentants du personnel. Parce que vous avez, d'un côté, les parents d'élèves comme moi, et ceux qui représentent les parents d'élèves, vous avez les délégués de classe, qui prennent position aussi pour le gamin. Et puis, vous avez donc la direction, donc le CPE, le directeur ou la directrice, etc. Et bien là, récemment, on a expulsé un élève définitivement du collège pour des faits très graves. Je peux pas vous dire lesquels pour pas que des faits très graves. On s'interroge, on se dit qu'il y a des chances que malheureusement les parents fassent appel et que nos décisions soient désavouées par le rectorat et qu'on soit obligé de réintégrer l'élève. Je vous dis pas la crédibilité après de toute l'équipe éducative.
Et vous êtes sûr que les parents vous défendent l'élève ?
Alors oui, parce qu'en fait, la mère a reconnu en disant oui, ce qu'a fait mon fils, c'est inadmissible, je vous demande la clémence, etc. Mmh. Elle aurait quand même pu au moins dire il faut qu'il apprenne et qu'il assume les conséquences, il sera effectivement viré. Non, il faut lui accorder la clémence. Mmh. Et alors le père, on a bien senti qu'il avait une dent contre l'école depuis l'origine de tout.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc il a dit que.
C'est jamais la faute du gamin, quoi, c'est ça que vous voulez dire.
C'est jamais la faute du gamin. Ouais. Donc du coup, on craint qu'il y ait appel, parce qu'on a déjà vécu ça. Mmh. Moi, je fais partie des parents d'élèves qui défendent le corps enseignant, mais tous ne sont pas dans cette optique-là.
Bien sûr.
Alors, on parle de quoi ? On parle de vice de procédure. On se croirait dans un tribunal, en fait.
Ouais, c'est ça, à l'américaine, quoi.
Voilà, on devrait dire, parce qu'en fait, on a eu un souci, c'est-à-dire que les délégués de classe n'étaient pas présents. Donc d'accord. Ça peut être un vice de procédure. Mais ils ne se sont pas présentés, en fait.
Mais alors effectivement, mais c'est même pas la, enfin, c'est pas le fond du problème. C'est bien ça, c'est ce que vous dites, Kevin, c'est qu'en fait, pour un petit vice de procédure, vous avez un gamin qui a fait un truc extrêmement grave, qui va être réintégré, et évidemment
là. Parce que ça embête le rectorat, parce que de toute façon, il va falloir le replacer quelque part, ce gamin, dans une autre école, il va faire le tour des collèges, comme ça, comme j'ai
d'accord,
vu.
D'accord, mais ce que dit Kevin aussi, c'est que les parents l'ont défendu. Et donc, en fait, dans ces cas, qu'est-ce que tu veux faire? Et justement, Benjamin Hamard, vous, au niveau des parents, est-ce que vous avez beaucoup de parents démissionnaires, on va dire, sur vos élèves à problème?
On en a, mais c'est pas la norme. Le profil type d'un gamin en difficulté, c'est effectivement des parents dépassés. Voilà. Et énormément, il faut bien le dire.
Et vous le dites, les parents, on est dépassés.
Ah oui, ils sont dépassés. Ils font peine à voir. Et la plupart du temps, bon, quand on les convoque, ils viennent. On voit bien, la plupart du temps, là aussi, le profil type, c'est une mère qui élève seule ses enfants. Et moi, j'ai des exemples très récents de mères d'élèves qui s'excusent devant moi. C'est-à-dire des femmes qui travaillent dans des métiers difficiles. Ouais. Qui viennent à 18h quand on les convoque et qui se répandent en excuses et qui me disent, j'ai le souvenir d'une mère d'élève qui me dit Monsieur Hamard, je demande au bon Dieu pour qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des gosses pareils. Et la mère, elle m'explique tout ce qu'elle a essayé de mettre en place, mais le gamin, il est à côté, il rigole. Donc moi, j'étris le gamin, je lui dis qu'il devrait avoir honte, regarde dans quel état est ta mère, comment tu peux rigoler, c'est pas possible d'être et encore, parce que des fois, je dis les choses très clairement, enfin, je dis, où t'as laissé tes neurones, quoi. Tu vois ta mère à côté, elle est plus bas que terre, et toi, tu rigoles. Donc là, aller sanctionner cette femme, mais ça n'aurait aucun sens. Ouais. Aucun sens. Donc il y a des gens démissionnaires.
Mais parce qu'elle n'est pas défaillante, elle est dépassée. En fait, Gabriel Attal, il fait la différence entre défaillant et dépassé.
Mais j'ai entendu. Mais après, il va falloir savoir comment on fait le distinguo. Eh oui. Alors, on peut le faire parce que lui,
la mère qui serait pas en excuse, elle n'est pas défaillante. Elle est dépassée.
Lui, ce qu'il dit. Oui, mais lui, ce qu'il explique, il dit qu'actuellement, ce qui qualifie le parent démissionnaire, c'est un manquement grave et que lui propose une série de manquements légers. Mais il va falloir être bon sur les critères.
Oui, bien sûr. Mais t'arrives.
Qui va dire que critères.
Non mais attends, encore concrète, une fois, le parent qui ne se déplace pas chez le juge alors qu'il est
très
convoqué,
bien, mais ça oui,
et ben voilà, ben ça c'est réglé.
Oui,
c'est
une démission. Là, ok, vous avez trouvé un critère.
Regarde, il y a un manquement, dépassé, pas dépassé. Je veux dire, franchement, je pense que quand t'es un gamin, même si t'es vraiment un gros débile, si tu vois ta mère qui est en train de faire un travail d'intérêt général devant tout le monde, etc., je pense que
alors je te donne un autre exemple. Moi j'ai vu des gamins en conseil de discipline. Insulter leur mère. Oui. Alors, soit pendant le conseil de classe, soit plus souvent à l'extérieur du conseil. Une fois, je suis sorti, il était en train d'insulter sa mère et je suis intervenu dans les termes les plus virulents.
C'est pour
donc,
ça que
tu as des choses très concrètes.
Moi, je suis pas une fan de ces mesures parce que pour moi, en fait, ces gamins, ils n'ont pas assez de présence parentale parce que ses parents, ils travaillent, ils ont énormément de boulot, ils peuvent pas être assez à la maison. Donc, ces gamins, ils sont élevés par la rue. Et pour moi, la seule vraie méthode possible, c'est la méthode de la dissuasion et c'est la méthode de l'enfermement, de la restriction et des centres éducatifs fermés. La vraie méthode, quoi. Même si c'est triste et que c'est dommage d'en arriver là, je pense qu'il n'y a aucune autre solution. Même aller taper au portefeuille des parents, c'est pas quelque chose pour moi qui.
Très rapidement, une phrase.
Oui, donc on attend qu'ils aient foutu des trucs pour les mettre en tôle. Moi, je préfère qu'on les éduque pour qu'ils fassent pas le bordel. Oui. Le gamin dont tu parles, qui ricanait devant sa mère, il s'est pas mis à ricaner du jour au lendemain devant sa mère. Il s'est pas, c'était pas un ange, un gamin bien sous tout rapport, et il est arrivé devant le prof, il a pété les plombs. C'est le fruit d'un long processus qui arrive comme ça. Et si on dit rien dès le départ, eh ben le gamin, il en a plus rien à foutre.
Ah, mais ne rien faire, c'est certainement pas la solution. Ça, personne ne dit ça. Hein. Certainement pas moi.
On va voir justement tout de suite le résultat de notre soir sur Twitter, Rémi, sur ce dossier.
Alors là, c'est massif et comment dire, il n'y a pas de tolérance en tout cas à l'égard de certains parents qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, délinquance des jeunes, les parents sont-ils les premiers responsables? C'est oui pour 90% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah ouais, donc très très forte majorité. Allez, on change de sujet dans un instant avec Anthony Morel qui va nous expliquer comment les nouvelles technologies vont nous faire gagner du temps à l'aéroport. Et vous allez voir qu'on va pouvoir gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis ensuite, on parle de fêtes foraines. Est-ce qu'il faut en finir avec les fêtes foraines? Ce sera à 13h. A tout de suite sur RMC.
Estelle Denis.
Il est 12h50, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui avec vous, on part en voyage, en week-end, on va visiter l'aéroport du futur. Et ce que vous nous dites, Anthony, c'est que bientôt, on va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour prendre l'avion.
Ben oui, ça reste l'un des points faibles du transport aérien. C'est vrai que pour le moindre vol, il faut arriver très en avance, voire très, très en avance.
Ouais, 30 minutes, même pas.
Ouais, alors pour les vols internationaux, c'est plus que ça quand même. Hein. Et même pour les... Alors il y a quand même les contrôles de sécurité, ça prend du temps aujourd'hui, mais ça va prendre de moins en moins de temps grâce à la technologie, et notamment grâce à une nouvelle génération de scanners qui sont testés par Aéroport de Paris, donc à Orly et à Roissy. On a 8. Bah, je sais que vous les avez testés.
Ouais, je les ai testés. Ah, voilà,
faut que vous nous racontiez, parce que c'est le truc, c'est qu'on n'a plus besoin de sortir quoi que ce soit.
En
c'est
fait,
ça,
tu
en
peux
fait,
apporter une bouteille de 2 litres d'eau ou de 2 litres d'orangina dans ta valise. Tu ne sors plus les choses de ta valise. C'est-à-dire que tu mets ta valise dans la petite bannette et là, tu fais le contrôle. Et en fait, s'il y a un problème, j'étais partie avec mon fils qui, évidemment, a gardé sa trousse avec le ciseau à l'intérieur. Bon, bah, tu penses bien que donc, son bagage a été contrôlé, bien sûr.
Normal.
Mais on n'a plus rien. On n'enlève plus.
On n'a plus d'enlever l'ordinateur.
On n'enlève plus l'ordinateur, on n'enlève plus les liquides, etc. Et ça fait gagner un temps fou.
Et en fait, c'est rendu possible grâce à la technologie. Alors, c'est en fait des scanners à tomodensitométrie, on appelle ça. C'est une technologie qui est utilisée depuis longtemps dans le médical pour voir à l'intérieur du corps humain. Ben, on s'en sert pour voir à l'intérieur de votre valise, en gros. Donc, c'est des rayons X. On prend plein d'images de la valise et on est capable de détecter en fait la présence, de dessiner en fait ce qui se trouve à l'intérieur de la valise. Donc, un ordinateur portable, on va le voir très nettement. On va être capable de détecter des explosifs, y compris des explosifs liquides. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de sortir les bouteilles et qu'on n'a plus besoin d'avoir cette limite de 100 millilitres par contenant, donc c'est quand même extraordinaire. Ça fait gagner en moyenne 30% pour le voyageur sur le temps qu'on passe à passer les contrôles de sécurité, ce qui est quand même pas négligeable. Et pour les aéroports, évidemment, c'est un très gros point positif pour fluidifier le trafic. Ils vont d'ailleurs augmenter le déploiement de ces technologies avec les Jeux Olympiques de Paris. Voilà.
Alors Anthony, il faut quand même toujours vider ses poches, hein, c'est-à-dire enlever ses clés, sa carte bleue,
pour passer
sous les portiques. Ça aussi, il y a des avancées là-dessus,
oui, ou
pas?
Ça aussi, ça pourrait disparaître.
Ah,
et grâce à une innovation française, alors qui est déjà utilisée à l'étranger, mais pas encore en France à ma connaissance. Alors c'est ce qu'on voit ici pour ceux qui nous regardent à la télé. En fait, il n'y a plus de portique. Il y a un espèce de machin qui ressemble à une grosse poubelle. Vous passez à côté et en fait, il y a une caméra qui va vous déshabiller virtuellement, mais qui peut voir dans un rayon de 10 mètres identifier n'importe quel appareil dangereux, même à travers vos vêtements. Et même si ce n'est pas un truc métallique, c'est-à-dire que même les couteaux, vous savez, les couteaux en céramique, là, qui sont très difficiles à détecter, et bien ça, ils sont détectés sans aucun problème par cette machine. Donc, il n'y a plus besoin de sortir les petits machins, de les mettre dans la petite barquette, de passer sous le portique qui fait bip bip. Là, on passe à côté de la machine, on ne s'arrête même pas et on va être instantanément détecté si y a un problème, tout est détecté instantanément. Là aussi, énorme gain de temps avec ces technologies qui pourraient aussi arriver dans les aéroports dans les années qui viennent. Quoi.
Enfin, là où on perd le plus de temps, c'est comme quand vous partez à l'étranger pour le contrôle des passeports. Alors là, on peut quand même passer 2 heures.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est embêtant.
Absolument. Alors, il y a quand même des gains de temps avec le système Paraf qui est quand même pas mal pour le coup. Donc, on va
faut être majeur, par exemple.
Alors, c'est vrai, il y a encore des limites, mais donc on coupe, on met le passeport biométrique et puis il y a de la reconnaissance faciale et on va pouvoir passer très facilement. Mais là, on peut aller encore plus loin. C'est testé notamment à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, où on expérimente la reconnaissance faciale pour remplacer la carte d'embarquement. C'est-à-dire que la veille du départ, on enregistre son visage via une application, on photographie sa pièce d'identité, et ensuite, en fait, c'est votre visage qui va vous servir d'identifiant dans l'aéroport. Vous allez passer sans avoir besoin de montrer ni passeport, ni carte d'embarquement.
Oh, c'est bien, hein.
Donc là encore, donc quand on cumule tout ça...
Envie de partir en avion.
Ben oui, évidemment. Et donc, on n'a plus besoin que d'arriver quelques minutes avant le départ de son vol, ce qui est quand même pas mal.
Anthony Morel, est-ce que vous êtes fête foraine ?
Pas du tout, non.
Bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on va en parler dans un instant. Vous savez qu'il y a des accidents de manège qui se multiplient. Il y a énormément de,
je suis pas très fête foraine,
de violence à la foire du Trône. On va se demander s'il faut en finir avec les fêtes foraines. Dites-nous ce que vous en pensez sur l'appli RMC et au 32-16. On vous attend, à tout de suite.